17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, aujourd'hui grand témoin Amine Couïder. Bonjour Amine.
Bonjour Nasser.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'orchestre, musicien, violoniste, formateur. Vous avez sillonné la planète. Vous êtes un globe-trotteur de la musique, de Alger à Riyad, de Saint-Pétersbourg à New York. Vous avez vraiment sillonné la planète et surtout vous êtes un orchestre pour la paix, vous êtes un militant de la paix. On en a bien besoin en ce moment de déflagration mondiale à travers la planète, de la Syrie à l'Ukraine, de l'Irak au Yémen et j'en passe. Donc on a bien besoin de paix et donc vous êtes d'abord... Au départ, un virtuose du violon. Vous avez très tôt, vous êtes algérien, vous êtes né en 1967, et vous êtes très tôt intéressé à la musique, au violon. C'est quelque chose, c'est inné. Vous n'êtes pas issu d'une famille de musiciens. C'est quelque chose qui s'est produit spontanément.
Oui. Merci déjà pour cette très belle introduction qui est très poétique. Merci à vous, cher Nasser. Ben écoutez, en tout cas, le violon, c'est pour moi, c'était la porte de la liberté, la porte de l'évasion pour l'enfant que j'étais. Il faut savoir que dans notre famille, c'est vrai qu'on est, il n'y a pas une tradition musicale, mais mon père aimait bien la musique chaabi à l'époque, donc puisque lui, il a vécu à la Casbah, et comme beaucoup de jeunes à l'époque, il aimait beaucoup
le chaabi, qu'on appelle la musique populaire, exactement, qu'on appelle le blues et le jazz d'Alger. C'est une musique qui est aujourd'hui est internationale.
Exactement, voilà, issue de la musique arabo-andalouse, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'impact de cette musique populaire, comme vous dites.
En plus, c'est une musique un petit peu comme je disais, comme le jazz ou comme le negro spiritual ou comme le folk music qui raconte les souffrances, les douleurs, la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'était une musique qui touchait les gens. Et ça, déjà, votre père était imbu, était friand de cette musique, il vivait cette musique et vous êtes, ça vous a pas laissé indifférent.
Exactement. Donc c'est parti de là. Et puis donc il a un ami, donc il est toujours vivant, c'est Cherchem Abdelkader, c'est l'un des grands maîtres aujourd'hui de la musique chaabi. Donc il le voit, il lui dit voilà, j'ai mon fils, il a 7 ans, j'aimerais bien lui faire faire du chaabi et rentrer au conservatoire. Il lui dit eh bien, écoute, c'est une très bonne idée, mais par contre il faut pas lui faire faire du chaabi, il faut lui faire faire du classique. C'est avec la musique classique, donc avec la connaissance de tout ce qui est solfège, tout ce qui est écriture musicale, il pourra choisir lui-même toutes les musiques qu'il voudrait faire. Donc me voilà au conservatoire à l'âge de 7 ans, faisant le violon. Donc je passe du Chabé à Tchaïkovski, à Saint-Saëns, à beaucoup de compositeurs.
C'est incroyable. Là, tout de suite, là, j'ai un flash. Ça me fait penser à Léonard de Vinci. C'est-à-dire que quand le jeune Léonard, il est pris et il va dans l'atelier de son, on prend le jeune Léonard et ça, je pense à ça spontanément. C'est-à-dire que on prend un enfant de 7 ans, on lui dit va faire du classique, etc. Mais c'est fabuleux. C'est cette intelligence et cette clairvoyance. Je veux dire, vous devez le bénir chaque seconde.
Ah oui, chaque seconde. De toute façon, on le voit régulièrement. Donc après, on pourra en parler tout à l'heure. Mais j'ai fait une école de musique. Je l'ai appelé. Donc on l'a honoré. Donc c'est vraiment, c'est aussi, voyez-vous, donc juste l'idée de qui est quelqu'un qui peut juste orienter ou soutenir un enfant, donc, ben, cet enfant peut devenir un musicien professionnel, il peut avoir un impact, parce que dans notre domaine, soit on est impacté, soit on est impactant. Et Cherchem Abdelkader, mille merci pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'après il a fait le suivi, etc. Après, bien entendu, l'école algérienne a fait le reste, parce qu'on avait vraiment un très très bel enseignement, le cours conservatoire, on a appris beaucoup de choses. Et plus tard, quand j'ai eu mon bac, donc mon père m'a vraiment aidé à faire de la musique, parce que je voulais faire de l'informatique, mais il m'a dit mon fils, tu as beaucoup d'expérience, j'ai réussi à avoir beaucoup, mes diplômes assez tôt, donc j'étais déjà en seconde quand j'ai eu mon premier prix de solfège, en première j'ai eu mon premier prix de violon, et quand j'ai eu mon bac, j'ai eu mon premier prix de musique de chambre, et puis après, voilà, je me retrouve à faire de la musique d'une manière professionnelle.
Ouais, alors moi je vois ça d'ici, parce que on voit des parents, ils ont des enfants, des garçons, des filles, etc. Tu seras ingénieur, mon fils. Tu seras médecin, ma fille. On va construire l'Algérie, etc. Et votre père, lui, il voulait que vous fassiez de la musique et que vous construisiez la paix.
Exactement.
D'une certaine façon.
Exactement.
Et à travers, incroyable.
Et à travers mon violon, donc, j'ai découvert beaucoup de choses, déjà, de par l'écoute que j'avais. Et puis après, quand je commençais à voyager, quand j'étais jeune, donc, j'ai découvert des pays, de leur culture, etc. Et tout en étant fier, donc, de ma culture. Parce qu'on ne peut pas connaître la culture des autres si on ne connaît pas sa propre culture. C'est comme ça que moi, j'ai étudié la musique arabe andalouse, la musique chabé, et aussi même la musique arabe. Parce qu'on dit la musique arabe, elle, c'est très grand comme concept. Dedans, il y a la musique du Khalid, il y a la musique orientale, il y a la musique du Maghreb, et dans la musique du Maghreb, il y a la musique d'Algérie, et dans la musique d'Algérie, il y a beaucoup de musique, etc. Donc, toutes ces petites différences ont fait que je me suis enrichi donc, de cette biculturalité.
Mais cet enrichissement, il est venu se greffer sur une formation, parce que déjà à 17 ans, on vous a confié la direction d'orchestre, à 17 ans.
Exactement.
Vous n'aviez pas encore le bac, je crois.
Oui, c'est ça, exactement.
Avant d'avoir le bac, vous étiez déjà directeur, vous étiez chef d'orchestre, incroyable.
Exactement.
Donc
c'était très tôt, et puis après j'étais aussi professeur, donc puisque je voulais...
Et d'abord une licence de musicologie à Alger et à Paris.
Exactement. Donc après, quand je suis venu donc, à Paris, donc, c'est là où j'ai vu que le métier de chef d'orchestre est l'un des plus beaux
Donc vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs.
Exactement.
Vous avez construit votre connaissance, votre savoir, et après vous avez sillonné la planète.
Exactement. Je me souviens d'un chef d'orchestre espagnol, quand je fréquentais l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, quand j'étais justement jeune et j'apprenais mon métier de chef d'orchestre, il me dit « On ne peut pas aimer sans connaître ». La connaissance est quelque chose de primordial. Donc, il faut absolument connaître ce que c'est qu'un instrument, ce que c'est que l'orchestre symphonique, et c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé mon violon, j'ai travaillé mon piano, j'ai travaillé aussi le oud, le mandol, je me suis mis un peu à la flûte, un peu à la clarinette, pour savoir ce que c'est qu'un orchestre symphonique. Et donc, ce qui m'a permis de bien connaître mon métier de chef d'orchestre, j'ai même fait le travail de régisseur. En fin de compte, cette connaissance m'a donné la possibilité d'avoir une certaine compétence, et pour bien comprendre, et puis je me suis lancé dans les études de chef d'orchestre.
Alors, vis-à-vis d'un instrument, puisque vous, c'était le violon, c'est vrai qu'il y a la connaissance, mais il y a aussi le feeling. On voit dans les conservatoires, lorsqu'un enfant se rapproche d'un instrument, on peut jamais le savoir à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a une journée ou deux journées, l'enfant est au contact d'un piano, d'un violon, d'une guitare, d'une flûte, etc. Et puis, en fonction de ce qu'il ressent, de ses ondes, il se rapproche d'un instrument, et puis des fois, on a des surprises. Donc, ce rapport à l'instrument, il est aussi, quelque part, complètement, pas irrationnel, mais il est inné. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Vous allez vers un instrument, et vous êtes allé vers le violon.
Exactement. Vous en parlez très très bien, vous avez cette fibre artistique que j'entends chez vous, et c'est tout à fait vrai. J'avais un professeur de musique, de violon, qui me disait « La grâce est dans les cordes de ton violon, mon enfant. Essaie de gratter dessus, peut-être. » que tu auras cette grâce. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment très très belle, parce que c'est vrai, c'est une introspection à travers l'enfant et qui est en train d'essayer de jouer sur n'importe quel instrument. Alors, bon, je parle du violon parce que je suis violoniste, mais au-delà de ça, c'est qu'on essaie de se surmonter déjà en termes techniques et aussi d'accéder à ce magnifique monde qui est le monde de la paix par excellence, c'est le monde de la beauté intérieure. Donc c'est cette fibre artistique qui après, donc moi, a sillonné tout mon parcours, notamment d'artiste pour la paix.
Ah, vous parlez de la beauté intérieure et de la paix et de l'instrument. Vous disiez très bien, vous le dites très bien. Lorsqu'il y a une guerre, on l'a vu à Palmyre, on le voit en Ukraine, on voit souvent, lorsqu'il y a eu l'écroulement du mur de Berlin, oui. On a un piano. À Palmyre, on a tout à coup un piano. En Ukraine, sous les bombes, aujourd'hui, on voit tout à coup un artiste qui vient avec son piano et qui joue. Mmh. L'écroulement du mur de Berlin, on a vu le célèbre violoniste qui était juste. Donc ça veut dire que quand il y a la guerre, je veux dire, l'instrument il est là et il s'impose. Donc tout le monde se tait, on écoute et c'est le plus grand. La musique, c'est le plus grand discours contre la guerre.
Exactement.
C'est ça.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous le dites avec justesse, avec de beaux mots. Et je dirais aussi que, en fin de compte, c'est le retour aux sources, parce que la source de l'être humain, c'est d'abord la paix. On ne naît pas pour faire la guerre. On est pour apprécier les choses qui sont belles. Donc, on est déjà dans la paix vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis aussi de tout ce qui nous entoure. Et donc, les sons deviennent une espèce de lunette à travers lesquelles, donc des canaux à travers lesquels on voit les choses différemment, mais dans une belle direction. Donc c'est aussi tout ce message que qu'engendre la musique. Voyez-vous, la musique n'a pas donc cette prétention de faire de la politique et de changer des positions politiques. Par contre, elle peut sensibiliser les hommes politiques et la population sur un point de vue sur l'autre. En fin de compte, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a peur de l'autre. Et quand on a peur de l'autre, on commence à être dans la violence. Mais faire de la musique, pas rien que la musique, tous les arts, donc favorise la compréhension de l'autre. Et à travers cette compréhension, donc on commence à bâtir donc cette paix. En fin de compte, j'aime ce que vous êtes parce que vous êtes d'abord un être humain et je respecte votre différence, je respecte votre culture et je connais ma culture et je me rapproche vers votre culture et je développe ma propre culture. Voyez-vous, donc c'est au-delà donc des sons, au-delà des formes, au-delà donc de l'art en règle générale et surtout la musique, c'est vraiment un instrument de paix par excellence.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec Amine Kouder, chef d'orchestre, parce qu'il faut bien donner un titre, mais surtout artiste, musicologue, amoureux de la vie, de la musique et de la paix, et amoureux des hommes et des femmes, donc amoureux de l'espèce humaine. La musique algérienne, les traditions algériennes, vous savez ce que c'est puisque vous êtes né là-dedans. Longtemps, il y a eu un peu une espèce de séparation entre l'Occident, le Sud, le Nord, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, par exemple, concernant la musique algérienne, les sons algériens, c'est que l'Occident, le Nord, s'est beaucoup alimenté. On a Béla Bartok, par exemple, qui s'est inspiré de la musique algérienne. On a des groupes mondialement connus comme les Beatles, comme les Rolling Stones, qui sont allés faire de l'immersion dans les groupes gnawa d'Algérie, parce que faut rappeler que la musique gnawa, c'est d'abord l'Algérie avant d'aller au Maroc, puisque le colonialisme les a quasiment laminés, et, comme les Moussems d'ailleurs, ils se sont réfugiés au Maroc, mais les gnawa étaient, c'est de chez nous, c'est de l'Algérie. Et donc, ils se sont inspirés, ils se sont alimentés de cette musique. C'est-à-dire que, en fait, on parle de ressourcement, c'est-à-dire que la musique occidentale se ressource dans la musique nord-africaine, arabo-berbère.
Tout à fait. Alors ça, c'est formidable. Ce sujet est très important pour moi parce que de par mon travail, donc après avoir fait des études à l'étranger, et j'ai commencé à faire ma carrière à partir de 1992, donc j'ai fait le premier concert à l'Opéra de Marseille, comme j'avais 25 ans, le plus jeune chef d'orchestre algérien, donc avoir dirigé un orchestre en France, français. Le retour en Algérie m'a permis de travailler avec l'Orchestre Symphonique National qui est dissous pour aujourd'hui, mais en tout cas pendant toute une période, on a fait tout un travail sur la musique algérienne et les origines de cette musique algérienne, et on s'est rendu compte que la musique arabo-andalouse est en le fondement de la musique dite algérienne et arabo-andalouse, donc qui touchait plusieurs pays. Et cette musique arabo-andalouse, il faut pas l'oublier, à l'époque de Zeriab, donc à Cordoue, donc c'est elle était dans son apogée. Donc les occidentaux venaient avec les troupes troubadours et les trouvères, ils prenaient ces musiques là et les développaient en Europe. Donc la suite, par exemple, la suite de Bach que qu'on connaît, Asalha, donc c'est l'origine, c'est les suites arabo-andalouse, c'est la Nouba à 5 mouvements. Donc, et 5 mouvements par rapport aux 5 prières de la journée, par rapport aux 5 obligations donc du musulman. Donc, il y avait aussi une dimension spirituelle donc par rapport à la musique. Et donc, on utilisait donc le canon qui deviendra quelques siècles plus tard en Occident le piano. On utilisait le ney qui deviendra la flûte traversière. On utilisera le hautbois qui était la zurna et ainsi de suite. Donc, par exemple, le violon, la viole d'Abrache d'aujourd'hui, le violon qu'on connaît aujourd'hui, qui date du XVIe siècle, en Italie. Donc son origine, c'est le rebeb qu'on utilisait donc en arabe andalouse. En fin de compte, déjà entre le 9e et 12e siècle, donc l'Occident s'est nourri, mais a pris, donc la musique a pris son essence, je veux dire, en majorité de cette musique arabe andalouse, donc dans cette Andalousie arabo-musulmane. Et aujourd'hui, donc le travail qu'on a fait avec l'Orchestre National, c'est de faire de la musique algérienne sous la forme symphonique. C'est se réapproprier cette universalité avec la musicalité, avec la musicalité avec plusieurs vecteurs qui sont des instruments différents. En fin de compte, un instrument, c'est un vecteur de communication.
Et puis redonner ses lettres de noblesse à certains instruments, je pense notamment au bendir, je pense à l'imzad, d'instrument touareg avec une seule corde. Je pense à la flûte,
à la reva.
Donc à tous ces instruments qui aujourd'hui reprennent leur place dans l'univers, cette musique berbère qui remonte et qui a donné Achouer, qui a donné toutes ces chansons que les femmes ont transmises. Donc il y a une vraie réminiscence de tout, et on les réinscrit dans l'universalité. Exactement. Et finalement ils sont à égalité avec cette musique dite occidentale qui longtemps a rayonné par son hégémonie.
Bien sûr, donc ce que vous avez dit à juste titre aussi tout à l'heure, c'est que la musique dite occidentale donc continue à s'inspirer aujourd'hui donc de la musique dite orientale et notamment de la musique algérienne. Il y a beaucoup de thèmes qu'on reconnaît dans plusieurs chansons en général en Occident, en France aussi, mais même aussi donc de la musique classique universelle comme Saint-Saëns, compositeur français qui est mort à Alger en 1901, qui s'est inspiré beaucoup de la musique arabo-andalouse pour l'écriture donc de ces thèmes, notamment dans bien entendu la suite algérienne qu'il a composé. Et aujourd'hui, il y a tout un travail donc dans les pays arabes. Il y a à peu près un orchestre dans 12 pays arabes et dans 15 pays africains. Un orchestre symphonique, pour vous dire, cette tradition s'est développée, mais l'idée c'est aussi de rendre cette universalité à la musique. C'est ce qu'on fait, nous, on a fait ça pendant des années avec l'orchestre.
À cet instant de la conversation, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un orchestre symphonique et un orchestre philharmonique?
Alors,
quelle est la différence entre les deux?
Alors, il n'y a aucune différence. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, en fait, c'est des appellations qui sont différentes, juste, mais aujourd'hui, quand vous dites symphonique, philharmonique, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi on a un certain moment fait la différence? Parce que à un certain moment en Occident, on a commencé à faire de la musique d'opéra. Donc c'est imposé le nom symphonique. On ne pouvait pas faire un orchestre symphonique qui joue de l'opéra, puisqu'un orchestre à l'époque, donc dont je parle à partir du XVIIe siècle, jouait d'abord des symphonies. Donc pour ne pas faire le mélange, on a créé le philharmonique, les amis du son, philharmonique, donc les amis du son, et qui était destiné beaucoup plus à l'opéra. Donc les orchestres qui jouaient de l'opéra, c'était des orchestres philharmoniques, et les symphoniques étaient spécialisés pour les œuvres symphoniques. Mais aujourd'hui, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, donc il n'y a aucune différence tangible. Mais donc c'est la même chose.
Alors, je disais tout à l'heure que bon, vous avez donc été très tôt dirigé un orchestre, et puis vous avez un cursus absolument incroyable. Et je crois que une de vos rencontres majeures, ça a été de rencontrer Valérie Gergiev, je prononce bien son nom, à l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Oui. Donc ça a été le point de départ, je crois, de beaucoup de choses. Ouais. Il vous a appris beaucoup de choses. Vous avez été son assistant. Exactement. Et de là, vous avez sillonné le monde entier. La France, bien sûr, Toulouse, Nice, Monte-Carlo, Marseille, Toulon, et puis le monde, Bucarest, Alger. Et vous avez aussi pratiquement couvert toutes les œuvres, des Noces de Figaro au Lac des Cygnes, en passant par Carmen, le Barbier de Séville, la Traviata. Donc, ça a été une révélation pour vous, ce contact avec Valérie Gergiev?
Oui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a changé complètement le courant de ma vie. d'artiste parce que j'avais terminé toutes mes études. Et puis après, donc je voulais vraiment apprendre d'un maître et donc de perpétrer cette tradition de maître à disciple qui est une tradition déjà soufie. Donc je parlais donc de la dimension spirituelle dans la musique. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup et c'est quelque chose d'important. Et donc en fin de compte, on dit quand l'élève est prêt, donc le maître se révèle par rapport à ça. Et pour avoir un enseignement global, pas uniquement technique, parce que à ce niveau-là, le chef d'orchestre ne vous parle pas de technique, il vous parle d'autre chose. Et j'avais souhaité donc travailler avec un chef d'orchestre. J'avais fait un stage donc de direction d'orchestre à Rotterdam, donc en Hollande, donc en 97. Et il se trouve que le professeur de ce stage, c'était Monsieur Valéry Gergiev, donc ce très très grand chef d'orchestre russe, qui est l'un des 10 meilleurs chefs d'orchestre au monde aujourd'hui, avec l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Et quand il m'a vu, donc il m'a dit j'aimerais bien que vous veniez à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai travaillé avec lui pendant
3 ans, ça.
Voilà, pendant 3 ans. Et puis après, j'étais son assistant. Et c'est là où j'ai découvert un autre monde de vraiment de travail de très 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 haut niveau. Donc j'étais dans le premier niveau, donc international. J'ai rencontré Placido Domingo avec Anna Netrebko, aussi une des plus grandes chanteuses d'opéra de ce siècle. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers l'opéra, parce qu'en fin de compte, l'opéra c'est aussi une histoire, comment mettre des sons sur des mots, donc un sens musical, un sens théâtral. J'ai appris beaucoup aussi sur un point de vue technique, comment travailler à un très très haut niveau avec des grands projets. Et donc ça m'a ouvert donc
Saint-Pétersbourg elle-même, c'est la rencontre entre l'Occident et l'Orient.
Exactement.
C'est l'Eurasie, c'est ce mélange de d'influence et de musique. On continue dans un instant avec les grands témoins.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec Amine Couder, on est à Saint-Pétersbourg, dans le cœur des cœurs. Saint-Pétersbourg,
oui.
Qui vous a pratiquement révélé, quoi.
Exactement. Alors, je dirigeais l'œuvre de Benvenuto Cellini, qui est un opéra français, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui était composé par Berlioz. Donc, le maître Valéry Gergiev m'a demandé de venir, puisque je suis aussi spécialiste de la musique française et de l'opéra français. Donc, j'ai travaillé avec lui. Donc, il m'a dit, avant que je ne dirige moi-même cet opéra, il m'a dit, j'aimerais bien que toi, tu fasses un concert avec toutes les équipes pour qu'ils puissent être rodés. Donc, donc on a fait le planning, on a fait les répétitions, j'allais monter sur scène. Il y a le régisseur général qui vient vers moi comme ça avec un peu beaucoup d'austérité. Il me dit, vous savez ce que c'est que ça, montrant le podium du chef d'orchestre? Je dis, c'est le podium du chef d'orchestre. Il m'a dit, non, c'est pas que ça. Ici, c'est tenu Tchaïkovski, Mravinsky, Prokofiev. Et il a commencé à citer des compositeurs et des chefs d'orchestre extraordinaires parce qu'il m'a dit, vous êtes dans la 217e saison de cet opéra. C'est-à-dire un opéra qui a 217 ans d'histoire. Il m'a dit, faites attention, vous êtes le premier Algérien à être ici. Soyez au rendez-vous. Alors il m'a mis la pression.
C'est extraordinaire.
Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le concert s'était très très bien passé. Et c'est là où je me suis dit, pour moi, c'est l'un des plus beaux jours d'artiste dans
mes... C'est très saisissant comme anecdote, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a, au-delà d'être le premier Algérien, vous êtes dans la peau de tous ces gens-là.
Ouais.
C'est ça le vrai message. C'est vrai, vous êtes Algérien, etc. Mais vous êtes dans la peau de tous les gens, de tous ces créateurs. Et être dans la peau de tous ces créateurs, c'est un vertige.
Ah oui, c'était incommensurable. Un grand honneur.
C'est incroyable. Honneur. Alors, vous continuez un peu votre itinéraire, et donc vous avez dirigé les chœurs et l'Orchestre Philharmonique International de Paris. Et ça, c'est ce que vous avez fondé. C'est le début de Amine Couder qui commence un petit peu à mettre sa patte quelque part. En 71, vous créez le chœur et l'Orchestre Philharmonique International de Paris, que vous fondez en 71, avec une résidence à l'UNESCO, où vous, bien sûr, vous jouez Verdi, Mozart, Faust, Aïda, etc. Et donc, c'est à la fois... votre cursus, votre tradition classique et tout, mais vous commencez à dire, voilà, aussi je fais la diversité. Oui. Alors c'est quoi, oui. Parce que c'est un mot à la mode, c'est quoi la diversité dans la philharmonie, dans la musique classique?
Alors vous savez, c'était très important pour moi, parce qu'en fin de compte, cet orchestre philharmonique international représente ma biculturalité, donc orientale et occidentale, et donc je me suis assigné dans nos programmes de faire de la musique algérienne sous la forme symphonique, donc ce qu'on appelle des fusions, donc pour montrer, donc j'ai j'ai pris des musiques arabes andalouses, et j'ai fait donc des arrangements orchestraux, donc sous la forme symphonique, mais avec aussi des instruments traditionnels, et j'ai même fait chanter une chorale, donc une chorale avec de plusieurs nationalités différentes, en langue arabe. Donc c'était vraiment le dialogue des cultures à travers les instruments de musique, à travers donc les mélodies, mais aussi à travers la langue, et donc ça c'est une chose qui est caractéristique de notre orchestre philharmonique international à travers tout ce temps-là, et on nous a donné le titre d'artiste de l'UNESCO pour la paix, que je viens de réavoir.
Ambassadeur du rapprochement entre les cultures.
Voilà, c'est ça.
Exactement la formule.
Exactement.
Et vous êtes un artiste de l'UNESCO pour la paix.
Exactement. Et ça, c'est, on représente donc les valeurs, les très belles valeurs de l'UNESCO. Et aussi, c'est aussi un pont entre les cultures, un pont entre les artistes pour travailler, pour développer donc cette idée de fusion, de connaître les autres cultures. Et là, dernièrement, on a été donc en Arabie Saoudite. L'orchestre a été invité dans le cadre d'un festival qui s'appelle Riyad Front, et on a fait donc de l'opéra arabe avec l'orchestre philharmonique. Et c'est quelque chose de formidable parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est un pays qui s'ouvre complètement sur la musique classique et sur l'opéra. Donc, on a été tous vraiment impressionnés par cette ouverture. Et donc, il y a un travail qui s'est continué aussi, notamment à travers l'ambassade de France, donc en Arabie Saoudite, dans l'équipe que je salue vraiment très chaleureusement parce qu'ils ont fait un travail formidable. Donc ils nous ont invités dans le cadre de la journée européenne, donc c'est le 9 mai dernier. On a fait donc de la musique bien entendu européenne, mais en fusion avec donc nos amis saoudiens, musiciens et choristes. On a fait la 9e symphonie de Beethoven, hymne à la joie, en allemand, en français et en arabe, avec des rythmiques donc d'Arabie
c'est
saoudite.
C'est très important voilà. Ce que vous dites, parce que l'Arabie saoudite s'ouvre sur l'image et s'ouvre sur le son. Ils ont commencé à monter il y a 3 ans des boîtes de production sur le cinéma et sur la télévision et sur la musique aussi. Donc ils sont dans un aggiornamento du Coran et de l'islam, et c'est pas plus mal. On quitte tout doucement le haram pour aller vers le halal de l'image et de la musique, et c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, et la religion devient quelque chose de tout à fait personnel qui rentre dans la spiritualité, et on va pas se plaindre de ça, et vous contribuez en tout cas à travers l'UNESCO et à travers vos œuvres à cette mutation, oui, en tout cas de la société je dirais musulmane de façon générale. Et donc, vous parlez beaucoup comme ça, mais j'ai pas encore entendu un mot dans votre bouche, le mot de Méditerranée. Je l'ai pas entendu encore.
Alors,
vous êtes par excellence un des dénominateurs communs fabuleux de la Méditerranée. J'ai pas encore entendu ça.
Oui, tout à fait. Alors, vous savez, j'ai participé, ça c'est vrai que les gens ne le savent pas beaucoup, pendant 7 ans à l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc où j'étais violoniste, donc j'étais aussi apprenti chef d'orchestre, j'étais chef d'orchestre, et donc on a fait beaucoup de rencontres, donc dans le cadre aussi des conservatoires de la Méditerranée, pour déjà sur des choses assez simples, qui est donc l'apprentissage de la musique avec notamment les modes arabes.
Parce qu'il y a beaucoup de choses en commun en Méditerranée, notamment en Méditerranée occidentale. Parmi les 10 pays, il y a beaucoup de musique, de sons en commun, et donc qui rapprochent ces peuples. Et en même temps, la Méditerranée, Fernand Braudel l'a dit, ce sont des routes, des circulations. Et quelle est la meilleure des circulations? Si c'est la circulation musicale.
Exactement.
Donc vous êtes en même temps un ambassadeur de cette Méditerranée
exactement.
Fraternelle.
Et ça, c'est vrai, je l'ai fait beaucoup en Algérie. Donc, on a fait beaucoup d'œuvres, on a invité beaucoup d'artistes. Et toute cette expertise me concernant, parce que parallèlement, j'ai aussi été enseignant pendant 20 ans. Et quand j'étais au cabinet du ministère de la Culture, puisque j'étais pendant 2 ans donc conseiller de Madame la ministre de la Culture. Donc j'ai travaillé aussi sur les problématiques d'enseignement de la musique pour bannir le phénomène de l'analphabétisation musicale, c'est-à-dire les gens qui lisent de la musique. Donc j'ai fait tout un projet sur les modalités de faire un programme pour l'enseignement de la musique en Algérie sur des bases donc solides, et j'ai pu créer donc il y a 1 année de cela.
Chaque enfant devrait apprendre à lire le solfège.
Exactement, exactement.
Comme on lit les lettres, comme on apprend à calculer, le solfège devrait être, je dirais, presque consubstantiel à la naissance et à l'éducation. Ça va très très vite, on n'a pas envie de s'arrêter, mais là, le retourne. Alors, Amin Quider, quels sont les projets? Je sais que vous avez créé une académie de musique à Alger, et puis que aussi ici en France, en Europe, vous avez créé aussi un orchestre et un chœur philharmonique international. indépendant et vous avez envie de lui donner un prolongement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quoi vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous projetez à l'avenir?
Oui. Donc cette Académie internationale, donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le résumé de tout mon parcours, notamment comme enseignant. Donc on fait la formation des formateurs. Je fais aussi des formations pour les managers à travers le leadership du chef d'orchestre. Ça aussi, ça fait partie de cette Académie qui est donc en Algérie. Et aussi, comme vous avez dit à juste titre ici, donc l'Orchestre Philharmonique International. Donc continuer à œuvrer pour développer ce travail donc de cet orchestre, notamment dans des pays donc les pays arabes, donc pour qu'on puisse représenter la culture française à travers cet Orchestre Philharmonique International et faire aussi donc un dialogue des cultures, le dialogue des mélodies.
Et donc votre travail en direction de la paix, du développement des cultures et du patrimoine vous fait aussi travailler en direction des concerts humanitaires. Je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil à Zaya Zouani, qui a un peu suivi vous êtes les deux, quoi. Algérien, d'origine algérienne.
Oui. Je la salue et vraiment, je trouve qu'elle a fait un parcours formidable. Zaya a commencé la musique professionnelle avec notamment l'orchestre que je dirigeais à l'époque, l'Orchestre International de Paris. Elle jouait comme altiste et tout de suite, donc elle avait cette volonté d'apprendre et d'aller de l'avant. Et puis après, quand elle a commencé à faire la direction d'orchestre, je l'ai invitée. Elle était mon assistante à l'Orchestre Symphonique National. Et il y a eu ce déclic et elle fait un travail formidable que je salue et je suis très content pour elle.
Un mille coups d'heure, en tout cas, merci. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est que vous êtes dans le métro, vous écoutez de la musique. Regardez celui qui joue, vous êtes dans une gare, il y a quelqu'un qui joue du piano ou de la guitare, rapprochez-vous de lui et puis écoutez. Dans la rue, soyez à l'affût de tout ce qui est musical. La musique rapproche les gens, réchauffe les cœurs. En tout cas, un parcours exceptionnel. J'espère vraiment avoir l'occasion de vous revoir, de vous réécouter sur notre antenne. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bon vent et puis on se revoit très très bientôt pour parler de quelque chose de très concret, de vos projets. Si vous avez une actualité particulière, on se fera un plaisir de vous recevoir. Amine Kouider, merci beaucoup.
Merci cher Nasser.
À très bientôt. Merci Amine.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.